Comme vous le savez, on était censé projeter un autre film, c'est-à-dire le film de Cham Benegal, Trikal. On n'a pas pu décoller sur ce film et on va donc projeter un autre film qui est le film de Satyajit Ray, de Chatranj ke Khiladi, joueur d'échecs, qui d'ailleurs n'a pas grand-chose à voir avec Goa. Donc, c'est une autre ville métisse qui va m'occuper pendant la deuxième partie de cet exposé. Mais je vais quand même tâcher de faire le lien entre le film qu'on n'a pas vu et le film qu'on va voir. Il y a des liens assez simples et assez évidents. Il n'y a pas de cinéaste d'envergure en Inde qui n'a pas été influencé en quelque sorte par ce Satyajit Ray. Et c'est le cas d'ailleurs de M. Benegal, qui vient de la génération et de l'après Satyajit Ray, si on veut. Et ce film de Cham Benegal, en fait, ça se passe à Goa. Et je vous le recommande chaleureusement. C'est un film qui est extrêmement intéressant et c'est parmi les films moins connus de Cham Benegal. C'est un film qui se passe à Goa, donc vous voyez où on en est, Goa en Inde occidentale, Goa ici vu par le vice-roi Tonjon de Castro au milieu du XVIe siècle, mais qui est resté sous le contrôle de l'Empire portugais jusqu'en 1961. Les Portugais ont été donc chassés de Goa en 61 et la fin de l'Empire portugais, comme vous le savez tous, ça ne se passe pas en Inde mais en Afrique avec la décolonisation d'Angola et de Guinée-Bissau et de Mozambique dans les années 70. Et il y a bien sûr toujours l'autre question dont on ne peut pas parler aujourd'hui, c'est la question de Timor, question fort intéressante. Alors donc, la vision de M. Benegal, qui lui-même originaire de l'Inde occidentale, il vient un peu plus au sud de l'Inde occidentale, c'est-à-dire la côte de Canara, ça porte sur les derniers moments de l'Empire portugais à Goa. Donc le film se passe en 1960 et ça se passe autour d'une famille, c'est la famille Sousa Soares. C'est une famille qui est donc une famille hautement lusitanisée et malgré le fait qu'ils ont une couleur de peau plutôt basanée, ils se prennent pour des Portugais. Et ils sont donc installés dans une très très grande maison. Et dans cette grande maison, ils vont donc réfléchir sur toute une série de questions. L'arrivée proche des Indiens, parce que l'armée indienne est déjà à la frontière. La famille qui est partagée entre Goa et Lisbonne, parce qu'il y a une partie de la famille qui habite Lisbonne. Et il y a d'ailleurs des oncles et des cousins qui vont arriver à Goa à ce moment pour arranger un mariage. Et ça va mal se passer. Et alors, donc il y a ce genre de questions, mais en fait, la question la plus profonde, ça tourne autour du passé de Goa. Et je ne veux pas raconter toute l'histoire, c'est pour ne pas gâcher le plaisir de regarder le film, mais le film commence avec les obsèques du patriarche, qui est le monsieur Sousa Soares, qui vient de mourir, qui est une espèce de bon vivant, avec beaucoup d'enfants illégitimes. Et après sa mort, sa femme va chercher de rester en contact avec son âme. Et donc, elle va mettre en scène cette espèce de séance pour contacter l'âme de monsieur déjà décédé, en passant par une de ses filles illégitimes et en utilisant des objets liés avec lui, comme par exemple un rasoir, etc., etc. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'elle essaie de contacter des gens du passé, au lieu de faire venir ce monsieur qui vient de mourir, elle fait venir des gens du passé goanais, dont des gens qui ont été, par exemple, brutalement tués par la famille Sousa Soares au XVIIIe siècle, dans le cadre de ce qu'on appelle les nouvelles conquêtes, les Novas Conquistas, de Goa. Et donc, ces gens-là, qui portent souvent le nom Rane, qui est un nom Rajput assez connu de Goa, vont venir pour, en fait, reprocher la famille en disant que vous êtes des vendus, vous êtes des gens qui ont trahi les Goanais, et vous avez donc participé dans cette conquête, mais tout cela, ça se passe d'une façon assez drôle et assez comique. Et ce qui m'a aussi frappé, et la raison pour laquelle je voulais en fait montrer ce film, c'est aussi pour démontrer en quelle mesure il y avait une espèce de circulation dans les conceptions de comment on fait un film sur une société métisse. Parce que ce film a été fait donc, dans les années 80, et si on regarde le film, si on regarde beaucoup de scènes à l'intérieur de ce film, on voit une expression extrêmement forte de Garcia Marquez. Donc, il y a le romancier de l'Amérique du Sud qui, son esprit est très très présent, même cette espèce de filming à l'intérieur de la maison cette espèce de notion de dynastie, aussi cette espèce de réalisme magique, hein, qui est donc au centre, en quelque sorte, de ce film. Alors, mais aujourd'hui, comme je vous ai dit, ce n'est pas ce film-là qui est au centre de notre propos, c'est plutôt ce film-là. Chatrange Kekelari, Les joueurs d'échecs, film de Satyajit Ray, qui est basé sur un conte d'un écrivain assez connu, qui est Munshi Premchand, qui a beaucoup écrit, qui est aussi connu par un certain nombre d'autres choses qu'il a écrit, par exemple sur la question des intouchables en Inde du Nord. Alors ça, c'est un film, contrairement au film de Benegal, qui se passe dans les années, autour des années 1850. Donc, c'est un moment quand les protagonistes les plus importants pour tout ce qui est la présence européenne en Inde, c'est pas les Portugais, mais c'est les Britanniques, c'est les Anglais. Les Anglais qui ont donc commencé à faire leur conquête de l'Inde à partir du milieu du XVIIIe siècle. La première grande conquête, c'est celle du Bengale en 1757-65. Et à partir de ce moment-là, ils vont passer du Bengale, tout d'abord quelques conquêtes en Inde du Sud, et progressivement, ils vont donc commencer à contrôler l'Inde du Nord. En 1818, ils ont plus ou moins terminé une première phase de la conquête du pays Marathe. Et donc, en 1855-56, il y a déjà une prise de contrôle par les Britanniques de l'Inde, mais qui est une espèce de drôle d'empire, parce que tout d'abord, ce n'est pas un empire direct, c'est un empire indirect, qui passe par la Compagnie des Indes. C'est la Compagnie des Indes, en fait, qui contrôle cela. Il y a un rapport avec la couronne britannique, mais c'est un rapport assez compliqué. Deuxièmement, il y a aussi beaucoup de royaumes indiens qui continuent à exister à l'intérieur de cette espèce d'hégémonie britannique à l'époque. Donc il y a des royaumes qui ont continué d'ailleurs jusque dans les années 1940, par exemple ces royaumes du Rajasthan, des Rajput, qui sont si chers aux Français. On ne peut pas aller à Jaipur ou à Jodhpur sans rencontrer des dizaines ou des centaines de Français en train de manger leur camembert. Et à regarder les gens avec des moustaches. Mais il y a donc aussi beaucoup d'autres royaumes, dont le royaume où ce film se centre, c'est donc le royaume de Oud ou de Avad, qui est centré sur la ville métisse d'aujourd'hui, c'est la ville qui s'appelle Lucknow. Alors, Lucknow est une ville qui est plutôt fondée. Donc, à partir de cette présence initialement côtière des Européens, il y a, par exemple, en 1640, on a une des premières forteresses des Anglais en Inde, c'est-à-dire Sassé Madras, le Fort Saint-George, au milieu du XVIIe siècle. Les Anglais vont ensuite créer une autre forteresse à Bombay, à Mumbai, et à la fin du XVIIe siècle, à Calcutta, dans les années 1690. Mais au début du XVIIIe siècle, les Anglais s'installent déjà, ils ont une petite présence à Lucknow, où il y a une dynastie très intéressante, très originale, d'origine qui vient de l'Asie centrale, qui fait partie de l'Empire moghol au départ, mais ce sont des gens qui sont un peu différents par rapport à beaucoup d'autres dynasties en Inde. Tout d'abord, c'est comme je viens de l'expliquer, la dynastie a été créée par un certain Burhan ul-Mulk, Saadat Khan, au XVIIIe siècle, et ce sont des chiites extrêmement influencés à la fois par des centres chiites de l'Asie centrale et par l'Iran et l'Irak. Donc il y a une très forte présence des Iraniens et des Irakiens pendant le XVIIIe siècle, et il y a aussi bien sûr une présence européenne dans cette ville. Donc si on conçoit cette ville comme une ville métisse, ce n'est pas une question exclusivement de métissage, disons, entre Indiens et Européens. C'est aussi une espèce de tourbillon, c'est un métissage beaucoup plus compliqué, où il y a des gens venant de Bukhara, de Samarkand, de Téhéran, de Esfahan, de Basra, etc., etc., dans cette ville, et bien sûr aussi des gens originaires de la région même de la plaine de Gange. Le roi de ce petit royaume n'est pas un roi à part entière, parce qu'il est toujours, soi-disant, subordonné. L'empereur moghol est toujours, en quelque sorte, son souverain. Donc il est roi et aussi il n'est pas roi. Donc c'est une espèce d'ambiguïté qui existe. Et par rapport à ça, en fait, il est très différent si on le compare, par exemple, à quelqu'un qui est beaucoup plus connu. Ça, c'est le célèbre Tipu Sultan, hein, le sultan de Mysore en Inde du Sud, qui, lui, était beaucoup moins ambigu dans sa relation avec l'Empire Mogol et qui a aussi été beaucoup moins ambigu dans sa relation avec les Anglais. Il a résisté aux Anglais. Et là, on voit en fait la scène qui est la mort de Tipu Sultan en 1799, qui est une certaine peinture bien sûr anglaise. Et pour résister aux Anglais, en fait, il a fait une alliance entre autres avec les Français et il a reçu entre autres le titre de citoyen Tipu dans les années après la Révolution française. Citoyen Sultan Tipu. Pour revenir au background, à l'essentiel de cette histoire du film de M. Satyajit Ray, ça se passe donc au milieu des années 1850. C'est un moment quand il y a déjà des grosses tensions entre les Anglais et les Indiens et un certain nombre de princes indiens. C'est un malentendu qui a à voir avec beaucoup de choses. Il y a un aspect, bien sûr, économique, parce qu'il y a toute la question du tribut qui est versé par ces royaumes et par les paysans aux Anglais, qui est quand même assez important, et qui est en espèces, mais aussi parfois dans le cadre de la production de l'opium pour l'exportation en direction de Chine. Et tout cela, c'est aussi quelque chose qui va se faire à la fin du 18e, début du 19e siècle. Donc il y a cet aspect-là, un aspect économique. Il y a un aspect religieux, et qui a été beaucoup souligné dans les derniers temps. Il y a quelques auteurs, par exemple un Écossais qui s'appelle William Dalrymple, qui a écrit un certain nombre de livres récemment, où il essaie de nous convaincre qu'en effet, il y avait une espèce d'esprit de djihad en Inde au 19e siècle, donc que M. Bin Laden existait déjà à l'époque. Et donc, c'était une espèce d'opposition entre islamistes et occidentaux. Alors, je pense que c'est un point de vue extrêmement exagéré, qui prend souvent au pied de la lettre un certain nombre de documents qu'on trouve au XIXe siècle. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un aspect religieux qui a à voir avec le fait qu'il y a une présence des missionnaires des Anglais à l'époque qui vont essayer de faire répondre le christianisme. Et il y a aussi l'autre aspect, c'est-à-dire le fait que dans l'armée britannique, il y a pas mal d'hindous et de musulmans qui sont là en tant que soldats, et il y a toute une question de leur pratique religieuse qui est toujours mise en cause par leurs supérieurs dans le cadre de l'armée de la compagnie. Alors, au cœur de tout cela, on a cette ville, Lucknow. Là, vous voyez un des célèbres bâtiments de Lucknow, qui est une ville à la fois hindoue et chiite. C'est très, très fortement imprégné par une présence chiite. Ça veut dire, on a par exemple des bâtiments comme ça, les Imambara de Lucknow, mais on a aussi, par exemple, à Lucknow, au 19e siècle, la fête de Muharram est extrêmement importante. Ça reste important jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est une fête de Muharram qui n'est pas exactement le même genre de fête qu'on trouve, par exemple, en Iran. Par exemple, il y a un certain nombre d'autres films de documentaires qui ont été faits récemment par des folkloristes, etc., pour démontrer comment le Muharram, en fait, ça se transforme d'endroit en endroit. Par exemple, si vous regardez le Muharram à Trinidad, tout d'abord, on ne l'appelle pas Muharram, on l'appelle José. Et ce n'est pas le nom espagnol, c'est Hussein. Donc c'est le mot Hussein qui se transforme en José. Et José, c'est donc pris comme une espèce de fête, un type de carnaval à Trinidad. Et à Lucknow, en fait, au 18e siècle, au 19e siècle, Muharram est aussi une fête qui reste extrêmement importante, tant pour les hindous que pour les chiites. Donc c'est une espèce de fête où participent des gens venant d'horizons religieux extrêmement, extrêmement différents, et c'est donc se transformer. D'ailleurs, on a un certain nombre de voyageurs iraniens qui vont arriver à Lucknow à la fin du XVIIIe siècle, qui sont complètement horrifiés par cette transformation. Ils trouvent que ça, c'est pas l'islam, ça, c'est pas le chiisme, c'est autre chose, et c'est délivré. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs vecteurs de métissage, et l'Iranien puriste ne se reconnaît pas dans ce qui est devenu sa culture une fois que c'est installé et s'est transformé en Inde. Donc ça, c'est pour tout ce qui est culture populaire. Vous voyez qu'il y a encore des restes, des grands bâtiments de cette époque, du 18e, début du 19e, qui sont encore là à Lucknow. Mais il y a aussi, bien sûr, une présence européenne. Je vous ai déjà parlé un peu de ça. Mais, par exemple, il y a un bâtiment qui a une histoire très curieuse et assez emblématique pour tout ce qui est l'histoire de la femme. C'est un bâtiment qui s'appelle Farangi Mahal. Donc, ça veut dire, en effet, le palais des Francs, le palais des Européens. Et l'aspect le plus curieux de ce bâtiment, c'est qu'au départ, c'était habité par les Européens, mais c'est devenu un centre, une espèce de madrasa des musulmans. Donc, il y a les ulama de Farangi Mahal qui sont devenus au XIXe siècle un groupe extrêmement important. Il y a un chercheur britannique, Francis Robinson, qui a beaucoup écrit sur ce groupe-là. Il y a aussi une présence européenne qui continue. Parmi les deux personnages les plus connus du Lucknow de la fin du XVIIIe siècle, il y a Claude Martin, personnage très très important, qui est une espèce de passeur culturel, qui habitait Lucknow pendant des années et des années. Et encore aujourd'hui, il est... on a oublié, mais en fait, il y a une espèce de lycée public school très important à Lucknow qui s'appelle La Martinière et ça qui porte effectivement le nom de Claude Martin. Autre personnage qui a été beaucoup discuté dans les derniers temps, c'est un franco-suisse qui s'appelle Antoine Collier, qui était à Lucknow à la fin du XVIIIe siècle, qui est resté à Faisabad et puis à Lucknow, très proche des Nawabs, des rois de Lucknow et d'Awadh, qui a aussi travaillé pour les Britanniques, qui était huguenot et donc qui est resté en Inde pendant à peu près 30 ans. Mais après la Révolution française, il est revenu en France en pensant que les choses allaient beaucoup mieux pour quelqu'un comme lui. Mais comme il était connu, il a acheté une grosse maison près d'Avignon et il a été tué 2 ans après par des bandits, mais qui étaient probablement des agents venant de Paris. Donc il y a ce genre de personnages qui... On est dans un cadre d'une ville métisse avec les agents, les gens qui sont responsables pour le passage, pour la transformation des cultures, pour le métissage, qu'on peut identifier, qu'on peut discuter. Dans le cas de Collier, en fait, il a laissé énormément de traces. Il a tout d'abord écrit un mémoire. Il a aussi fait des traductions. C'est lui qui, par exemple, est responsable pour une version courte de Mahabharata, qui a été d'ailleurs publié tout récemment par Georges Dumézil. Mais c'est aussi quelqu'un qui a laissé des collections de lettres en persan, des lettres qui sont dirigées par exemple à ses enfants, parce qu'il avait 2 femmes musulmanes indiennes et des enfants métis, et il écrivait des lettres, mais des lettres assez curieuses, par exemple avec bourré des citations du Coran, où il disait, par exemple, à un moment donné, c'était question d'un voyage d'une de ses femmes entre Lucknow et Delhi. Et il donne des instructions à ses agents pour dire qu'il faut absolument que ces femmes restent dans la Chine, qu'on ne peut pas voir le visage et même pas un des cheveux de ces femmes, parce qu'il cite le Coran, parce qu'il dit le cheveu de la femme et la femme même. Et des choses comme ça. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui est passé vraiment un peu de l'autre côté. Voilà un peu pour vous donner une petite idée de la femme. Alors, ce métissage, ça s'exprime aussi par le personnage du roi même, que vous allez voir dans ce film. Ça, c'est Vajradhalisha, qui est le dernier roi d'Awadh résident à Lucknow. C'est quelqu'un comme vous allez voir, qui finalement a été chassé de Lucknow et qui s'est installé à Calcutta, à Mathiaburj. Et c'est quelqu'un qui était lui-même compositeur, poète, qui s'intéressait beaucoup à la musique. Donc vous allez voir que la musique va jouer un rôle très important dans ce film. Et aussi des pièces de théâtre où il y avait un aspect danse, qui était des théâtres dansés. Et c'est quelqu'un qui était complètement méprisé par les hommes. Méprisé pourquoi? Parce qu'on pensait que c'était un espèce de roi fainéant, que c'était quelqu'un d'assez efféminé, hein, qui ne représentait pas du tout les valeurs. Donc, d'un côté, on avait les bons Rajputs, les Afghans, des gens comme ça, les vrais guerriers, qui savaient comment se comporter en roi, tandis qu'on avait ces gens-là qui étaient considérés comme plus ou moins efféminés, presque des eunuques en quelque sorte.
Et on avait beaucoup de doutes aussi sur leur sexualité, sur les pratiques sexuelles dans, à l'intérieur du palais, etc. Donc vous allez voir un peu tout cela, et ça a donné finalement aussi une espèce de justification morale pour l'action des Anglais, parce que le film, en fait, ça porte sur la conquête de l'Atlant, comment les Anglais ont pris l'Atlant. Et c'est aussi, donc vous voyez la dame qui était derrière tout cela, et c'est aussi une réflexion qu'on a sur ce monsieur, ce qui est le dernier empereur moghol, Bahadur Shah Zafar, qui lui a été chassé 2 ans plus tard, c'est-à-dire en 1858, et qui a fini sa vie en exil à Rangoon, en Birmanie. Il est mort là-bas. Et quand on pense à Zafar aussi, bon, il y a moins l'aspect efféminé par rapport à Walid Ali Shah, mais il y a quand même cet aspect-là. Alors, le film de Ray, vous allez voir, c'est autour de ce problème d'une situation d'une ville métisse, mais où il y a toujours des malentendus culturels. Donc, on a une série de personnages assez schématiques qui se sont présentés. Il y a des Britanniques qui ne comprennent rien de l'art. Il y a des autres Britanniques, eux, sont de la seconde ou de la troisième génération, qui sont déjà entre les deux mondes, linguistiquement, culturellement, qui participent un peu à ces deux mondes, et qui sont en effet des passeurs culturels, mais finalement qui deviennent un peu, malgré eux, les agents de la conquête. Il y a les Indiens, les différentes sortes d'Indiens, et en fait, pour pas trop dire, il y a au centre de l'intrigue l'idée que, d'ailleurs ça me fait penser à une phrase de Prodel, comment l'Inde a été conquise par elle-même. C'est-à-dire, on a l'idée que c'était la paresse et l'incapacité des Indiens de faire front aux Anglais qui étaient en quelque sorte responsables. Et il y a là un thème assez important dans ce film, c'est-à-dire comment, en fait, les Indiens et les deux personnages centraux, ils se laissent, ils sont complètement indifférents par rapport à la situation politique. Ils sont des joueurs d'échecs, ils passent leur temps à jouer d'échecs. Et il y a une guerre, il y a autre chose qui se passe en fond de scène. Pour eux, c'est pas, ça parle à moins d'importance. Et alors, donc, pour terminer, 2 mots sur la réception de ce film. Comment ça a été vu et apprécié, surtout en art. Comme vous le savez, probablement, Satyajit Ray a été beaucoup apprécié en Occident. Il a une réputation un peu plus compliquée en Inde. Et la réputation qu'il a en Inde, c'est une partie de ça. Il y a des gens qui se considéraient beaucoup plus de l'avant-garde que lui, pensaient que lui, c'était une espèce de... Il produisait une Inde exotisée pour la consommation de l'Occident. Donc, il y a quand même un certain nombre de critiques à son égard. Mais c'est vrai que si on parle à pas mal d'intellectuels européens, c'est vrai que c'est une idée qui représente pour eux l'Inde. J'ai eu l'occasion, il y a un an, de faire un entretien avec l'historien Carlo Ginzburg, qui était de passage en Inde, et je lui ai demandé, qu'est-ce que vous connaissez de l'Inde? Et il m'a dit, c'est une idée. Donc c'était aussi simple que ça. Et en particulier, ce film pose problème, parce qu'il y a la question qui a été posée par la critique indienne, c'était de savoir en quelle mesure Satyajit Ray reprenait les stéréotypes qui étaient produits par l'Empire britannique sur les Indiens. Et c'est une question qui reste ouverte, et on peut revenir sur ça. Est-ce qu'en effet, il n'est pas en train, donc justement, de participer à cette chose qu'il est en train de critiquer en même temps? Donc il y a eu pas beaucoup de discussions, il y a eu des comptes rendus, il y a aussi eu un article assez, je dirais presque violent, de quelqu'un qui est plutôt assez connu à Paris, Ashish Nandi, un autre intellectuel bengali, qui lui a écrit dans les journaux indiens pour dénoncer en effet ce film en disant que on voyait que Satyajit lui-même était un occidentalisé, quelqu'un qui n'avait pas de vrai rapport avec sa propre culture, et donc ce film était une évidence de cela. Vous voyez que le métissage, ça ne s'arrête pas au 19e siècle. On était en train de dire en quelque sorte que culturellement, M. Ray était lui-même un métis. Que le cinéma qu'il faisait n'était pas purement indien. Alors, il faut dire que pour faire cette critique, M. Nandi, qui est lui-même chrétien, qui écrit en anglais, qui fait partie donc d'un monde qui est hautement occidentalisé. Alors on peut se demander où est-ce qu'on se place pour faire ce genre de critique. C'est quand même un peu difficile, parce qu'il faut toujours, dans ce genre de critique, se placer du côté d'une espèce du pur contre le mélange, contre la mythique. Et donc il y a ce genre de questions qu'on peut donc bien sûr poser autour de ce film. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres questions qui ont été posées par rapport à ce film. Mais c'est un film qui est surtout réussi, oui, deux autres choses. Malgré le fait que tout d'abord, Satyajit Ray l'a fait en hindi, qui n'était pas son habitude. En fait, c'est un ourdou. C'est un hindi assez persianisé. Tandis que la plupart de ses films sont faits en bengali. Deuxième chose, il faut quand même aussi apprécier la présence d'un certain nombre d'acteurs extrêmement importants de cette génération hein, dans ce film. Il y a là un moment qui est plus ou moins le début de sa carrière, la grande actrice Shabana Azmi, qui joue un rôle assez important. Il y a aussi Saïd Jafri, qui est assez connu, qui a joué, il y a des gens parmi vous qui connaissent le film de John Huston, The Man Who Would Be King, je ne sais pas comment ça se traduit en français, l'homme. Oui, et il joue un rôle là-dedans avec Sean Connery et Michael Caine. Mais Saïd Jafri est quelqu'un qui, en fait, il est aussi dans My Beautiful Laundrette. Il avait à ce moment-là un peu le profil de homme pourri aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas faire un film en Occident sur l'Inde sans avoir homme pourri. Donc, c'était un peu Saïd Jafri à l'époque. Mais il a aussi choisi des acteurs assez inattendus pour deux rôles. Il y a Sanjeev Kumar, qui joue un des rôles centraux, qui est quelqu'un qui était plutôt connu par sa présence dans le cinéma commercial de Bollywood. Et dernièrement, le choix qui est vraiment, vraiment surprenant, c'est pour jouer ce rôle-là, il a choisi Amjad Khan, qui était à ce moment-là connu pour un de ses rôles, c'est-à-dire il était le méchant dans le film Cholet. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont vu Cholet. Alors là, vous voyez qu'il y a ce bandit qui s'appelle Gabbar Singh. Et c'était le rôle le plus important que Amjad Khan avait joué jusqu'à ce moment-là. Et à partir de Gabbar Singh, choisir Amjad Khan pour jouer le rôle d'un espèce de roi efféminé, feignant, c'était assez surprenant. Mais c'est un coup, à mon avis, qui est très, très réussi. Donc, il y a aussi quelque chose d'autre qu'il faut, donc garder en tête, c'est-à-dire c'est aussi un moment quand Satyajit Ray va rencontrer Bollywood et un certain nombre d'acteurs qui sont aussi dans le cinéma commercial et ça se place aussi dans ce genre de rencontre. Donc je vais m'arrêter là si vous avez des questions.
Le film date de quelle année dans la carrière de Satyajit?
Écoutez, je ne suis pas absolument sûr, mais c'est le milieu des années 80 si je ne me trompe pas.
C'est une question, c'est pas sur Pedjar, c'est même pas sur l'Inde, mais c'est le rapport qu'on peut faire entre Kurosawa et Satyajit Ray. Mm-hmm. Puisqu'on a reproché aussi à Kurosawa d'avoir créé une image du Japon pour l'exportation, pour les festivals européens, oui, pour une clientèle européenne. Et il y a aussi toute une littérature au Japon qui a attaqué Kurosawa comme une espèce de traître occidentalisé. Et souvent, on s'est pas rendu compte qu'en fin de compte, on peut aussi considérer qu'il japonisait des thématiques européennes, shakespeariennes, en propre. C'est-à-dire qu'on peut prendre dans le métissage les choses dans un sens, mais aussi dans l'autre. C'est-à-dire une espèce d'anthropophagie, de digestion d'éléments européens pour faire du cinéma japonais. C'est tout de même, ce sont presque des contemporains. Quels seraient les parallèles qu'on pourrait faire et les oppositions entre ces deux géants de l'histoire du cinéma, et qui, d'ailleurs, je te l'avais dit un peu avant, pour moi l'Inde c'est Satyajit Ray, et puis pendant longtemps le Japon c'était Kurosawa. Ils ont réussi, pour les Occidentaux, à incarner leur pays.
Oui, c'est vrai, mais alors il y a plusieurs façons de comprendre la présence de Satyajit Ray. Tout d'abord, il faut dire que les reproches ne sont pas les mêmes. Il y a différentes sortes de reproches qu'on avait fait. J'ai résumé très rapidement. Parce qu'on est dans le cadre de discussion sur les villes métisses, j'ai concentré mes remarques sur ces questions-là. Mais il y a, disons, trois sortes de reproches. Il y avait donc les cinéastes plutôt, disons, de gens marxistes, qui avaient des reproches à faire à son égard, parce qu'ils ne traitaient pas suffisamment les questions de lutte de classe, les questions changements, de transformation économique, etc. Donc là, par exemple, on opposait ces films, par exemple, au film de Mrunal Sen, qui était assez connu pour avoir une position beaucoup plus de gauche, beaucoup plus proche, disons, de la gauche, de gauche officielle indienne. Il y a des gens qui, d'un point de vue, disons, culturel, pensaient qu'il n'avait pas un vocabulaire de cinéaste, un vocabulaire technique, qui était suffisamment indien. Et là, par exemple, il y avait quelqu'un qui était Kumar Sahni, qui était aussi connu dans les années 60-70, qui lui essayait par exemple de faire des choses qui étaient, il disait, beaucoup plus adaptées au rythme de la vie indienne, qui était beaucoup plus long, souvent, qui était vraiment pas du tout censé être vu par le grand public. Et là, c'était vraiment au niveau de dire que même si les intrigues et des choses comme ça étaient indien et il y avait un fond de scène indien pour certains trucs. Finalement, les films en tant que films pouvaient être faits par quelqu'un qui venait d'ailleurs. Et ça, franchement, je suis pas suffisamment dans cette question technique de comment on fait des films pour commenter. Mais je sais qu'il y a ce genre de questions. Alors. Pour la comparaison avec Kurosawa, je pense que Kurosawa avait un rapport beaucoup plus compliqué avec l'Occident. Parce que, comme on sait, il y a des films de... Par exemple, on a pris Yojimbo de Kurosawa et on a fait même plusieurs films en Occident. En fait, les Spaghetti Western de Clint Eastwood, comme par exemple les films du tout début, The Man with No Name et tout cela, ça vient tout droit de Kurosawa. Et on a même fait une autre version avec Bruce Willis il y a 10 ans, c'est toujours Yojimbo. Les 7 samouraïs, on a fait ça, on a transformé ça. Donc en fait, il y a cette espèce de cercle qui se définit. Tandis que c'est très difficile de voir l'influence de cette élite sur le cinéma, soit hollywoodien, soit occidental ailleurs. On ne voit pas des gens qui sont en train d'emprunter ou de reprendre des thèmes. Donc ils restent un peu coincés dans l'Inde. En quelque sorte. Donc il y a quand même une différence intéressante, même si je pense qu'ils étaient très proches, ils s'admiraient l'un l'autre. Alors, je vois que c'est la grosse déception, le fait que vous êtes en train de revoir les joueurs d'échecs que vous avez probablement tous lu deux ou trois fois. Mais voilà.
Peut-être qu'on pourrait dire quelques mots sur la ville de Goa elle-même. Mm-hmm.
Ok, donc je vais juste vous dire deux, trois choses sur ce doigt. Alors, donc, vous voyez ici, tout d'abord, il ne faut pas oublier que ce n'est pas une ville seulement, c'est aussi un territoire. Donc, il y a là le territoire de Goa autour, et cette partie, c'est ce qu'on appelle les vieilles conquêtes. C'est les conquêtes qu'ont fait les Portugais au XVIe siècle, tout d'abord en 1510, dans les années 1530. Donc il y a le cœur de Goa qui est ici à Tiswari, qui là où il y a la vieille ville de Goa, et Panajim qui est la ville de Goa d'aujourd'hui. Il y a donc ces deux autres territoires, Salsette au sud et Bardesh au nord, qui sont pas, où il y a quelques villes d'importance secondaire comme Margaon par exemple, mais qui restent quand même assez rural. Hein. Ce n'est pas des régions hautement urbanisées. Donc, quand on pense à la ville de Goa, la ville de Goa, telle qu'on la connaît, en fait, c'est la vieille ville de Goa, qui existait déjà avant la conquête portugaise. C'était déjà une ville de certaine importance à la fin du XVe siècle. Et c'était une ville qui était tout d'abord... contrôlé par un certain nombre de dynasties d'origine locale, et donc à la fin du XVe siècle a été finalement prise par les sultans de Bijapur, qui est un royaume qui est à l'intérieur. Et il y a quelques restes, pas beaucoup, de cette présence du sultanat de Bijapur à Goa. Parmi les rares en effet, c'est le portail d'un bâtiment qu'on appelle le palais de la Dilshad. Mais on ne sait pas exactement quelle était la fonction de ce bâtiment. Alors, donc, si vous regardez la ville de Goa, telle que ça a été à la fin du XVIe siècle, par exemple, vous voyez qu'on a, bien sûr, cette espèce de... ce n'est pas exactement la ville espagnole classique, mais il y a un centre, il y a la cathédrale, le C, il y a le palais des vice-rois, il y a le prison, le tronco, il y a une série d'églises assez importantes, et par exemple, des églises, tout d'abord c'était les franciscains et un certain nombre d'autres ordres qui se sont installés là-bas, et à partir des années 1540, on a la présence des jésuites à San Paolo, qui est plus à l'intérieur, plus à l'ouest, par rapport à la ville. Donc, il y a toute une série de clichés sur Goa au XVIe siècle. On l'appelait, par exemple, Rome de l'Orient, parce qu'on disait que c'était le centre de la religion, de la foi catholique, et c'était donc considéré comme une espèce de ville où on voyait partout des croix, une présence chrétienne, etc. Mais tout d'abord, il faut garder en vue que cette structure est calquée sur la ville musulmane. Donc, il reste très peu de traces, mais par exemple, ici, on a ce qu'on appelle le Paso de Sabayo, qui est le palais de Sabayo, c'est Sabayo Adel Shah, Sabe Adel Shah, le sultan, et ça, c'est devenu le siège de l'Inquisition. Donc, on prend le centre de la présence musulmane et on le transforme dans une espèce de centre de présence catholique. De la même façon, on a pris énormément de choses des bâtiments publics qui existaient et on a soit gardé la fonction, parce que j'imagine que les marchés qui sont ici étaient les marchés qui existaient auparavant, mais où on les a transformés, mais d'une façon assez logique. Et d'ailleurs, si vous connaissez la ville de Mexico, Mexico, ce n'est pas tout à fait surprenant. Vous savez que Zocalo, c'est exactement là où il y avait le centre préhispanique aussi, qu'on a transformé de la même façon. Alors, donc, là, il y a une espèce de logique. Il y a ces bâtiments publics, mais il y a aussi une présence de toutes sortes d'Européens et des Asiatiques. Des Européens, je vais vous dire juste quelques mots. Depuis le départ, en fait, l'Empire portugais n'était pas exclusivement un empire portugais. Il y avait, bien sûr, des Gallegos, c'est une histoire compliquée, est-ce qu'ils sont portugais ou pas portugais. Mais il y avait aussi, et ça on a trouvé depuis le départ, des Allemands du Sud, d'Augsbourg, de Nürnberg. Il y avait des Irlandais, beaucoup. Et donc, il y avait une espèce de mélange de présence européenne déjà à l'intérieur de cette ville. Par exemple, le grand saint, c'est François Xavier, qui n'est pas portugais. Et celui qui a beaucoup fait pour améliorer le tombeau de saint François Xavier, c'était un Allemand d'Augsbourg qui s'appelait Ferdinand Krohn, à la fin du 16e, début du 17e siècle. Donc ça, c'est pour l'aspect mélange parmi les Européens. Il y avait aussi beaucoup d'Asiatiques, des gens de la région, peu de musulmans, parce que les musulmans, en général, ont été chassés, mais il y avait une exception. Il y avait un prince de Bijapur qui résidait là, mais qui était parmi les rares qui tenaient encore une maison pendant la deuxième moitié du XVIe siècle. Il y avait aussi quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est une ville qui est bourrée d'esclaves. C'est-à-dire, pour chaque Portugais, on dit qu'il y avait 5 ou 6 esclaves. Ça veut dire que s'il y avait, par exemple 1000 Portugais, il y avait 6000 esclaves. Et ces esclaves venaient de régions très différentes. Il y avait des gens de l'Afrique orientale, ce qu'on appelle surtout, pas tellement les Abyssiniens, mais plutôt des gens de la côte Swahili. Il y avait un certain nombre de Sénégalais, de Ceylan, et même beaucoup de Bengalis, parce que c'était une présence esclave, il y avait tout un marché d'esclaves bengalis, maintenant on partit directement du Bengale et on partit en passant par la Birmanie. Donc on a aussi ce mélange. Et tout cela, ça représente pour nous une espèce de casse-tête, un puzzle, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de trace de tout cela dans la mémoire collective goanaise. Si on se demande où sont passés ces esclaves, ces gens de l'Afrique orientale, ces gens de Bengale, etc., on a oublié. Il y a, par exemple, quelques communautés d'origine africaine en Inde. Hein, un peu plus au sud de Goa, par exemple, dans la région de Kanara, il y a quelques-uns. Il y a quelques-uns sur la côte de Gujarat. Et il y a quelques-uns, par exemple, à l'intérieur de l'Inde. Mais ça, c'est les Africains qui sont venus, par exemple, à Hyderabad au 19e siècle. Il y a même une région à Hyderabad qui s'appelle Habshigula, qui est le quartier des Habshi. Mais en général, à Goa, si vous demandez, alors, quelles sont vos origines, on va vous dire, on est goanais de souche. Hein? Donc, on a une espèce d'amnésie sur cette question de métissage biologique. Par contre, on a quand même un souvenir qu'on a gardé de tout ce qui était métissage culturel. Il y a peut-être, peut-être une vingtaine de familles ou une trentaine de familles aujourd'hui qui parlent portugais, pas plus que ça. Mais on a cette idée. Mais cette idée est devenue de plus en plus compliquée parce qu'aujourd'hui, on confond un peu l'Amérique latine avec les Portugais. Et le pire, c'était, et je vais terminer avec ça, dans les années 90, parce que les Portugais ont rompu leur rapport avec l'Inde en 61, c'était que dans les années 70, à la fin, qu'ils ont rétabli leur rapport. Le président du Portugal est allé à Goa, il a proposé un lectorat pour enseigner le portugais à l'université de Goa. Et on lui a dit qu'on préférait l'arabe. Parce qu'il y avait beaucoup plus d'emplois dans le golfe Persique qu'en Arabie Saoudite. Il n'était pas content. Même si, bien sûr, au Portugal, on parlait arabe, mais comme de temps.
J'aurais pu savoir s'il y avait encore une grande communauté chrétienne à Goa.
Bien sûr.
Parce que moi, j'étais à Goa il y a 20 ans. Oui. Il était courant de croiser des bonnes sœurs en cornette, oui, et des curés en soutane.
Oui. Oui, en fait, grosso modo, on peut dire que si on prend cette ligne-là, à l'intérieur de cette ligne, c'est une majorité chrétienne. Mais si on regarde ces autres régions qui font partie de ce qu'on appelle les nouvelles conquêtes, les nouvelles conquistes, là, il y a une majorité hindoue extrêmement forte. Et c'est pour une raison très claire. Tout d'abord, ça s'est fait au milieu du XVIIIe siècle, et à ce moment-là, les Portugais sont devenus très ambigu envers cette question de conversion, etc. Les jésuites ont été chassés de Goa pendant un certain temps à la fin du XVIIIe siècle. Et le marquis de Pombal, qui était celui qui était l'homme fort du Portugal à l'époque, se considérait comme un homme des Lumières, etc. Et donc il était assez. Il n'était pas du tout sûr s'il voulait pousser la conversion comme on l'avait fait au XVIe siècle. Au XVIe siècle, on a été assez vigoureux et même brutal. Dans les années 1540, 50, 60, il y a beaucoup de temples qui sont cassés, on fait un peu la chasse aux prêtres hindous, etc., etc. Donc c'est pas seulement l'islam qui est pris en tant que cible, même la religion des gentils, comme on les appelait, les hindous étaient pris comme cible. Et le résultat, c'est qu'il y a eu quand même des conversions assez importantes, mais des conversions assez curieuses aussi, un peu comme à Pondichéry, c'est-à-dire on est converti, mais on sait très bien qui est Brahman et qui est Chardo et qui est d'une caste ou d'une autre. Donc, on est tous chrétiens, mais tout en gardant les rapports de caste qu'on avait auparavant.
On est tous frères, mais il y en a qui sont plus frères que d'autres.
Voilà.
Bon, je crois qu'on peut remercier.